science et qui disent bien ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... C'est les faits qui parlent et c'est une valeur suprême. Donc, c'est l'analyse qui est faite par quelqu'un comme Isabelle Stengers, qui est une scientifique belge, il me semble, qui questionne beaucoup le pouvoir de la science dans nos sociétés. C'est que un peu la science serait devenue une autorité supérieure depuis que nos sociétés ne reconnaissent plus officiellement, en tout cas, d'autres formes d'autorité, justement comme Dieu ou la religion ou le roi, etc., ou un empereur. Donc la science deviendrait alors le seul argument d'autorité quant à ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Voilà, et donc, ça viendrait toujours un peu d'une manière ou d'une autre de la science. Alors, donc, ce serait la science qui définirait ce qui est, et donc le milieu scientifique, alors que nous autres, les personnes non scientifiques, les individus lambda, on serait prisonniers de nos préjugés, de nos désirs, de nos illusions, bref, de tout ce qui n'est pas rationnel. Donc, on serait dans le faux. Alors, lorsque nous, on propose une émission comme celle-ci, c'est bien parce que la science, en tant que valeur absolue, a été beaucoup utilisée pour justifier des systèmes de domination. Donc, ainsi, donc, dans les siècles précédents, ça a regorgé d'études montrant, par exemple, que les populations noires avaient un plus petit cerveau que les blancs, ou encore que leur posture physique se rapprochait de celle du singe. Enfin, autant d'expériences qui justifiaient finalement leur exploitation. Donc, l'esclavage, ça devenait quelque chose de logique, qui allait dans l'ordre des choses, de naturel. Finalement, c'était un peu comme l'élevage. On utilisait des animaux plus faibles que nous, moins intelligents, etc., pour faire des basses besognes. Au XXe siècle, on se rappellera évidemment de toute l'horreur des théories, donc appuyées vraiment scientifiquement hein, sur les juifs et leur nez crochu ou autres arguments biologiques de ce type, qui ont été portés malheureusement bien au-delà de l'Allemagne nazie. Alors, ces exemples, quand on les évoque à notre époque, ils choquent, ils peuvent choquer, ou ils font rire, ou ils semblent absurdes. Et pourtant, bah, ce genre d'études, elles se poursuivent encore aujourd'hui pour justifier une domination qui est celle des hommes sur les femmes. Alors, selon les époques, et aussi selon les scientifiques, il y a eu des thèses comme quoi les femmes auraient eu un organisme plus faible, un cerveau plus petit, ou encore posséderaient des gènes de la docilité. Donc, ces thèses, hein, elles ont été quand même régulièrement aussi, au cours de l'histoire, démenties. Mais on a l'impression qu'il y a toujours des nouvelles études qui voient le jour, et qui découvrent encore de nouvelles conneries de ce genre. Alors, on se dit quand même que c'est vraiment pas un hasard et que c'est pas pour rien qu'on parle de société patriarcale. C'est vraiment parce que ces idées-là, elles sont ancrées et alimentées régulièrement par la science. Alors, pour toutes ces raisons, il nous semble plus que jamais important de questionner la science à la fois sur ses pratiques, mais surtout sur les idéologies qu'il y a derrière. Alors, donc nous, dans cette émission, on ne va pas rentrer dans le débat sur les démarches scientifiques en elles-mêmes, parce que ça mériterait une émission à part entière. Mais globalement, on peut quand même dire que de nombreuses expériences qui ont été menées hier comme aujourd'hui, donc qui tendent à prouver que les femmes sont biologiquement inférieures, donc les protocoles de ces expériences-là, ils sont très discutables. Par exemple, ces études, elles ont été menées sur une des petites parties de la population ou de manière très aléatoire. Mais ça, on y reviendra au fur et à mesure quand on vous parlera d'expériences précises, parce que c'est difficile d'en parler comme ça dans le vide. Mais de manière plus générale,
Nous, ce qu'on tient vraiment à dire, c'est que la science, elle n'est pas objective. En effet, en résumé, on pourrait dire que les recherches scientifiques, par exemple, elles sont faites par des individus et que le plus souvent, ces individus, par exemple, sont des hommes et que forcément, du coup, ils sont le fruit d'une civilisation, d'une culture, et donc ils ont été éduqués d'une certaine manière dans une société donnée. Donc leur façon de travailler, elle est déjà forcément orientée. Ce qui veut dire quelque part que l'objectivité ou la neutralité, pour nous, elle n'existe pas, quoi. Donc, pour creuser cette idée, quelque part, dans les hypothèses qui vont être mises en place par ces personnes, ces scientifiques, elles ont déjà une influence sur les résultats qu'ils vont obtenir. C'est ce qu'on pourrait appeler communément le pouvoir de suggestion. Alors, dans les sciences humaines, par exemple, ça peut paraître plus évident. Par exemple, dans des études sociologiques, on va prendre un exemple très concret, hein. Si on demande à un homme s'il préfère les femmes autoritaires ou les femmes timides, pour mener une étude très rigoureuse sur les attirances des hommes, machin, déjà en posant la question, on va présumer que l'homme à qui on pose la question préfère les femmes. Alors que voilà que déjà c'est qu'une présupposition. Concrètement, peut-être cet homme préfère les hommes. Donc finalement, en posant cette question, on laisse peut-être pas d'espace à la personne pour dire que elle préfère les hommes. Donc c'est un exemple tout bête, mais c'est vraiment des mécanismes de suggestion qui sont et de présupposition qui sont mis en place et qui sont aussi valables de manière peut-être un peu plus complexe, mais pour les sciences dures comme la physique ou la chimie. Donc vraiment, on se rend très vite compte dès lors qu'on a ça en tête, que des expériences scientifiques sont menées par des personnes de là où elles sont, de là où elles viennent. Enfin, c'est pas pour rien que dans nos sociétés occidentales, justement patriarcales, il y a toujours énormément d'études qui sont faites sur ce qui différencierait les hommes des femmes. Et donc, que les protocoles scientifiques, ils sont bien conditionnés par des facteurs sociologiques, économiques et politiques. Donc nous, c'est vraiment dans tout ce cadre-là qu'on a besoin de questionner justement la science dans ce qu'elle porte d'idéologique et aussi dans ses protocoles. Ce qui ne veut pas dire que dans cette émission, enfin, on va nous aussi s'appuyer sur des démarches scientifiques, mais je crois que peut-être que la différence qu'on peut faire, c'est que nous, on ne va pas chercher à nier que ces démarches-là, sur lesquelles on s'appuie, elles ont une dimension politique. Par exemple, on vous précisera après, on va s'appuyer sur les travaux d'une femme et qui, effectivement, parle de là où elle est. Et je crois que l'important pour nous, c'est plus de mettre en perspective que les réalités, qui déjà, il n'y a pas une réalité, une vérité, mais des réalités, et qu'elles sont constituées par les individus qui vivent ces situations, et que c'est ça qui fait donc les réalités. Et je crois que l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que c'est toujours c'est toujours le pouvoir qu'on a sur nos vies. C'est-à-dire que ce qui fait nos réalités, nos vies, c'est pas une quelconque autorité, alors que ce soit selon les époques, les milieux, que ce soit Dieu, les politiciens ou aujourd'hui des scientifiques. C'est vraiment un pouvoir que nous, on peut reprendre en main et que ces capacités d'analyse, de critique et même d'expérimentation, elles peuvent être mises en place par nous. Donc voilà, cette introduction, parce qu'il nous semble vraiment important de montrer en quoi la science aujourd'hui et la science d'aujourd'hui est indissociable du pouvoir. Donc, le thème de notre émission, mais on le développera aussitôt après un morceau de musique, c'est bien justement les liens entre science, cerveau, sexe et pouvoir.
Alors, vous êtes toujours sur Dégenré et on vient d'écouter un morceau de Crass tiré de l'album Penis Envy qui s'appelle Systematic Death et qui parlait un peu des stéréotypes enseignés aux filles, aux garçons et dans lesquels après on reste en tant qu'homme et en tant que femme et en quoi ce système est mortel parce qu'il donne juste des humains divisés en deux catégories sclérosées. Voilà, en résumé très vite. Et sinon, donc, pour cette émission, on s'est donc sur sexe, cerveau et pouvoir, on s'est concentré là plutôt à démonter les idées reçues sur les soi-disant différences biologiques entre les cerveaux des hommes et des femmes. Et on a particulièrement choisi... Dans le champ des sciences, ce thème du cerveau, parce que depuis quelques années, on voit que ce qui est hyper à la mode, alors autant peut y avoir des articles dans des magazines scientifiques, dits sérieux, ou je sais pas, des quotidiens qui sont censés quand même avoir une espèce de gage de sérieux au niveau de l'information qu'ils apportent. On a vu des trucs assez horribles, que ça soit dans le monde diplomatique,
le monde,
le courrier international, enfin tout ça qui ont un certain crédit, et autant des trucs de vulgarisation qui paraissent dans tous les magazines féminins divers et variés. Enfin, en tout cas, c'est très étendu. Et donc, ce qui est hyper à la mode, c'est la neurobiologie, donc c'est-à-dire l'étude du cerveau, pour appuyer des différences entre hommes et femmes qui seraient innées, qui seraient inscrites dans le cerveau et dans lesquelles on ne pourrait pas se sortir. Et avec ça, donc, on explique à peu près tout et n'importe quoi. Donc, avant, il y a une période où c'était plus les explications hormonales. Alors là, maintenant, c'est un peu plus has-been, quoi, parce qu'il y a eu un peu trop, quand même, de trucs qu'on montrait qu'on pouvait pas... expliquer 15 milliards de trucs par les hormones. Donc ce qui est très à la mode, c'est la neurobiologie. Et pour ça, on s'est pas mal appuyé sur les recherches d'une neurobiologiste, justement, Catherine Vidal, donc qui elle travaille à l'Institut Pasteur.
Je ne sais pas si elle est très à la mode, hein, a priori, pas si sûre.
Eh ben, en tout cas, c'est ça qu'on peut remarquer, c'est donc qu'on s'est appuyé, entre autres, sur un livre qui est sorti, qui s'appelle « Cerveau, sexe et pouvoir ». Et on peut remarquer qu'il est absolument pas présent de manière, que ce soit dans des librairies ou même dans les bibliothèques. Et par contre, on s'est rendu compte que tous ces livres super à la mode, donc avec des explications
biologisantes,
etc., qui appuient des définitions hyper stéréotypées de qu'est-ce que sont les hommes, qu'est-ce que sont les femmes. Mais en gros, tout le discours, c'est en fait, on ne dit pas qu'il y en a qui sont moins égaux que les autres, c'est juste que fondamentalement, ils sont différents et que si on ne se rend pas compte de ça, c'est que on s'est fait bouffer le cerveau par tous ces groupes. C'est pas dit clairement, mais c'est un peu ça, les groupes de pression féministes qui essaieraient de nous faire croire que ces différences sont dues à l'éducation, alors que non, c'est inscrit dans nos gènes, dans notre cerveau, dans nos hormones. Avec des titres comme « Pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire des cartes routières ?»
Donc comme ça, ça peut paraître ironique, mais pour eux...
En fait, pas du tout.
Voilà, pour eux, pas du tout. C'est prouvé scientifiquement.
Donc voilà. Les recherches de Catherine Vidal, ça nous paraissait intéressant parce que déjà, c'est... assez explicatif et c'est un truc un peu de vulgarisation de recherche scientifique. Et aussi parce qu'elle a une approche éthique et qu'elle analyse pas mal dans ce bouquin le poids des pouvoirs politiques et économiques dans les recherches scientifiques. Et elle démontre aussi que dans le choix des publications, plein de publications scientifiques vont choisir de mettre en avant, par exemple, des études qui montreraient les homosexuels ont le majeur de doigt gauche plus long et que c'est pour ça qu'ils sont homosexuels, des trucs aussi intéressants que ça, parce que c'est des sujets médiatiques, comme ces trucs sur les différences hommes-femmes, et que ça fait vendre. Et qu'il y a aussi des dessins politiques derrière, et elle analyse un peu comme tout est lié là-dedans, et comment on peut remettre en cause tout le crédit de ces recherches scientifiques. En quoi aussi c'est des trucs qui sont dangereux parce que c'est un peu comme l'a expliqué Hélène avant, quoi. C'est tout ce truc de dire que si on est déterminé biologiquement, ça sert à rien de lutter, ça sert à rien de contester quoi que ce soit parce que
son
tout serait déjà inscrit, quoi.
Voilà, son statut donc, social ou.
Et parce qu'en plus, on se rend compte quand on fouille que c'est les mêmes laboratoires scientifiques qui vont faire ces trucs sur les différences hommes-femmes, mais aussi sur les noirs, les blancs, etc. Et surtout aux États-Unis, ça représente vraiment un marché financier énorme, quoi. On aurait pu aussi s'appuyer, par exemple, sur la sociologie pour démonter ça, parce qu'il y a aussi plein d'études sociologiques qui peuvent prouver que plein de trucs qui sont des caractères stéréotypés hommes-femmes sont des trucs acquis, quoi, par la culture, l'éducation. Mais aussi, j'ai l'impression que justement, à cause de ce poids de la science, c'est intéressant que ça soit une neurobiologiste qui critique ça, parce que moi, je me dis aussi que du coup, ça a plus de poids, que ça marche aussi dans les deux sens,
gens,
en
ça
fait.
Ça a beaucoup de poids comme critique.
Ce qu'elle dit, et puis que ça explique aussi un peu des trucs auxquels on n'est pas obligatoirement au courant, parce que, évidemment, si on n'a pas étudié ça, on ne sait pas obligatoirement à quoi ça correspond exactement. Donc voilà. Alors, pour ça, on va vous passer des extraits d'une conférence qu'elle a fait, où c'est plus un cours à des étudiants. Alors, vous en rendrez compte en l'écoutant que, par exemple, des fois, elle fait appel à des trucs de visualisation, vu que c'est un cours. Donc, vous n'aurez pas ça parce qu'on est juste à la radio. Et voilà. Donc, et puis nous, on complétera un peu donc sur où elle démonte, en fait, différentes idées reçues les plus courantes, quoi.
Et donc, une des idées reçues qui a la vie dure, parce que ça fait des siècles que ça dure, alors que pourtant ça a été énormément démonté, mais ce serait l'idée qu'il y a des différences dans le poids du cerveau et du coup dans l'intelligence entre les hommes et les femmes. Mais je vous en dis pas plus, parce que donc Catherine Vidal va expliciter ça dans une des interventions dans sa conférence. Simplement, donc la première citation, en fait, qu'elle fait, c'est une citation de quelqu'un qui s'appelle Broca, Monsieur Broca, qui date des années 1860, et qui semble, ce monsieur, il semblait avoir besoin sans doute de justifier sa position de pouvoir dans la société par rapport aux femmes, hein, puisqu'il a passé une grande partie de sa vie à peser des cerveaux pour accréditer l'hypothèse que les femmes auraient un cerveau plus petit. Voilà, donc on écoute tout de suite Broca et l'analyse de Catherine Vidal.
Ainsi, il déclarait, on s'est demandé si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas exclusivement de la petitesse de son corps. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. Il est donc permis de supposer que la petitesse relative du cerveau de la femme dépend à la fois de son infériorité physique et de son infériorité intellectuelle. Il est frappant de constater que depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours, et malgré la multiplicité des études portant sur les différences de taille de cerveau entre les sexes, aucun consensus n'a pu être dégagé sur cette question. La principale raison vient de la disparité des méthodes de mesure qui tiennent plus ou moins compte des facteurs susceptibles d'influencer le volume du cerveau. Donc il y a, on a vu, la dimension du corps, il y a aussi l'âge. On sait que le volume du cerveau diminue d'environ 10% avec le vieillissement. L'état nutritionnel est également important. On sait par exemple que la sous-alimentation entraîne un développement anormal du cerveau qui est plus petit. Et la cause du décès compte évidemment quand on prélève les cerveaux sur les cadavres. En cas de mort violente, le cerveau sera en quelque sorte plus lourd que s'il est prélevé chez une personne atteinte d'une maladie neurodégénérative. Et enfin, il y a les méthodes de prélèvement du cerveau. À quel niveau précisément se fait la séparation de l'encéphale par rapport à la moelle épinière? Et est-ce que les ménages sont pris en compte ou pas? Et c'est ainsi que selon des critères de correction du poids brut de cerveau à l'autopsie, on peut obtenir des différences variant de 0 à 180 grammes entre les cerveaux masculins et féminins. Quoi qu'il en soit, sur un plan scientifique, la question des différences de taille du cerveau entre les sexes apparaît vaine, sachant qu'il n'existe aucun rapport entre le poids du cerveau et les aptitudes intellectuelles. Ce fait était d'ailleurs bien établi au XIXe siècle, grâce à l'autopsie de nombreux hommes célèbres qui, avec la mode de la craniométrie, donnèrent leur cerveau à la science. Et on cite souvent les cas d'Anatole France et de Tourguenieff. Le cerveau du premier pesait 1 kg et celui de Tourguenieff 2 kg. Vous pouvez donc constater justement que le cerveau d'Einstein étant d'environ 10% inférieur à une moyenne qu'on évalue autour d'environ 1,350 kg. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que ces chiffres illustrent l'ampleur de la variabilité individuelle du volume cérébral. Il est absolument évident qu'en matière de cerveau, c'est bien la qualité qui prime sur la quantité. Mais encore aujourd'hui, et malgré toutes les évidences, le débat n'est pas clos. La dernière grande polémique date de 1992 à propos d'une étude basée sur des données anthropométriques issues des archives de l'armée américaine. Ces mesures portaient sur la taille des casques, la carrure des uniformes, et le poids de 6000 sujets enrôlés dans l'armée. Il en ressortait une classification d'après laquelle la capacité crânienne est supérieure chez les Américains asiatiques comparativement aux blancs et aux noirs. De plus, les résultats montraient que le crâne des hommes était supérieur à celui des femmes, de même que les crânes des officiers étaient plus gros que ceux des soldats. Et l'auteur n'a pas hésité à conclure de ses travaux qu'il démontre que la capacité crânienne est tout naturellement proportionnel au quotient intellectuel, comme quoi les vieilles thèses du XIXe siècle ont vraiment la vie dure. Tout d'abord, il faut préciser que sur un plan strictement biologique, les cerveaux des mâles et des femelles sont différents, puisque la reproduction sexuée implique des organes, des hormones et des comportements sexuels différents qui sont tous contrôlés par le cerveau. Et c'est au cours de la vie fœtale que s'effectue ce qu'on appelle la sexualisation du cerveau. Au début du développement embryonnaire, le sexe génétique de l'embryon XX pour les femelles et XY pour les mâles induit la formation des organes sexuels qui vont rentrer en fonction très tôt pour fabriquer les hormones sexuelles. Et les hormones sexuelles sont sécrétées dans le sang du fœtus qui vont ainsi pénétrer dans son cerveau. Et c'est cette imprégnation hormonale précoce qui va influencer la formation des circuits de neurones qui, plus tard, à la puberté et à l'âge adulte, seront impliqués dans les fonctions de reproduction. Et il faut bien voir que ce programme de développement est valable chez tous les mammifères. Il est le fruit de l'évolution et c'est lui qui permet la reproduction sexuée nécessaire à la survie de l'espèce. Et c'est donc précisément dans ce sens qu'il faut comprendre la notion de sexe du cerveau en tant qu'organe biologique.
Alors,
Donc, vous l'aurez compris, hein, y a pas de différence manifeste entre le poids du cerveau d'un homme ou d'une femme, et donc encore moins au niveau des intelligences. Je crois qu'on peut pas comparer. C'est un peu la conclusion basique, mais qui semble important de rappeler qu'on peut faire. Alors ça, c'est donc la démarche dans des démarches scientifiques, ce que il y a toujours un peu des gens qui ont cherché à prouver. Et il y a aussi un autre domaine, qui est le domaine historique, sur lequel on s'appuie souvent pour justifier des inégalités, des discriminations, des choses comme ça. C'est comme si, en fait, l'histoire, alors que c'est, je sais pas, c'est les gens qui ont toujours créé l'histoire, puisqu'ils l'ont vécu, voilà, donc ils ont mené des luttes, ils l'ont vécu, mais c'est comme si ça servait à justifier ce qui deviendrait, du coup, naturel. Alors, si on prend un exemple, on prend par exemple la préhistoire, parce qu'on a des exemples assez croustillants là-dessus. C'est comme si même s'il y avait eu des rôles, par exemple attribués à la préhistoire, ce qui est quand même loin d'être prouvé, puisque c'était des rôles à la préhistoire, il faudrait ces rôles-là deviendraient naturels et il faudrait absolument les faire perdurer. Comme si on disait pendant la préhistoire ils chassaient leurs animaux et ils les mangeaient crus, alors il faudrait continuer nous à chasser des animaux et à manger toute la viande crue. C'est un peu ce genre de raisonnement complètement absurde qui sont pourtant souvent tenus et qui deviennent érigés comme des vérités, quoi.
Voilà. Et alors le truc un des trucs tirés soi-disant de la préhistoire et qui est un des stéréotypes que j'ai le plus vu et que j'ai aussi entendu par exemple en faisant des micro-trottoirs dans la rue sur les différents sangs de femmes, c'est la fameuse théorie des hommes qui donc sortaient chasser le mammouth à la préhistoire et des femmes qui restaient à la caverne. Et alors de ça, on en tire des tonnes de conclusions. Donc dans un des livres dont s'est servi qui nous a vraiment fait le plus hurler, enfin moi je pense que je peux à peu près hurler à chaque
bon
page.
Dire.
C'est ça, c'est celui des psychologues Alan et Barbara Pease qui sont...
Oubliez vite leur nom surtout.
C'est ça, à moins pour aller, brûler leur livre par exemple. Et alors eux, ils ont des certitudes. Donc par contre, on ne sait pas d'où ils les sortent parce qu'ils disent tout le temps que c'est très scientifique et qu'ils s'appuient sur des tonnes de recherches, mais ils citent pas vraiment non plus leurs recherches. Donc voilà, les hommes chassaient le mammouth, protégeaient, allaient dehors, etc. Alors que les femmes faisaient la cueillette, restaient à la caverne, s'occupaient des enfants. C'était très clair. Et alors de ça, ils vont expliquer. Que par exemple les hommes ne trouvent jamais rien. Alors leur exemple c'est par exemple qu'ils ne trouvent pas le beurre dans le frigo. Alors ça c'est pas par exemple parce que c'est pas eux qui rangent le frigo mais leur femme, ou parce que ça les fait chier de chercher vraiment et qu'ils préfèrent que leur femme le trouve. C'est pas du tout un truc éducatif, mais c'est parce qu'ils ont pas la même vision. En fait les hommes ils ont une vision élargie vu qu'ils chassaient le mammouth, alors que les femmes elles ont, vu qu'elles étaient tout le temps dans la caverne et qu'elles cueillaient, elles ont gardé une vision rétrécie spécifique. Donc, l'autre pendant de ça, c'est que les femmes, elles ne savent pas lire une carte routière. Et alors là, c'est pareil, ça a rien à voir avec des trucs de... Parce que je pense qu'on pourrait revenir dans le rôle de l'éducation. Je pense que les jeux qui sont permis aux garçons ou aux filles peuvent expliquer plein de trucs sur comment on se mouvoit dans l'espace, etc. quoi. Mais alors déjà, c'est un truc là... Ou en gros, ce qu'ils disent, mais ne demandez pas ou n'essayez pas de lire une carte routière. De toute façon, vous n'y arriverez pas parce que génétiquement, votre cerveau n'est pas fait pour, parce que vous n'avez pas la bonne vision. Et en fait, tout leur bouquin, c'est que des trucs comme ça. Et voilà, je pense qu'on vous en lira aussi quelques citations après. Mais pour l'instant, on va écouter donc un autre bout d'interview de Catherine Vidal où elle remet en cause justement ces histoires d'orientation spatiale.
Enfin, et nous arrivons au bonobo, il est important de rappeler que sur un plan évolutif, une des spécificités du cerveau humain, comparativement aux animaux, y compris aux primates évolués, une des spécificités justement de l'Homo sapiens sapiens est l'hypertrophie, l'immense développement des aires cognitives du néocortex et en particulier des régions frontales du cortex cérébral. C'est ce cortex frontal qui occupe un tiers du cerveau chez nous, qui va permettre les fonctions intellectuelles les plus élaborées, telles que le langage, le raisonnement, la conscience ou la pensée abstraite. Et ce cortex préfrontal est en quelque sorte le chef d'orchestre de l'activité cérébrale qui supervise tout, y compris les comportements instinctifs fondamentaux tels que les comportements alimentaires ou les comportements de reproduction. En conséquence, c'est le frontal qui va permettre à l'être humain de se libérer des lois dictées par les gènes et par les hormones. Et c'est ce qu'a brillamment expliqué le grand biologiste français que vous connaissez tous, qui s'appelle François Jacob, dans ce livre qui est toujours d'actualité, qui s'appelle « Le jeu du possible » et que je vous recommande. Comme tout organisme vivant, l'être humain est génétiquement programmé, mais programmé pour apprendre. Chez les organismes plus complexes, le programme génétique devient moins contraignant en ce sens qu'il ne prescrit pas en détail les différents aspects du comportement, mais laisse à l'organisme la possibilité de choix. L'ouverture du programme génétique augmente au cours de l'évolution pour culminer avec l'humanité. Alors, revenons maintenant à la question des différences d'aptitude entre les sexes, avec cette autre théorie qui privilégie une origine génétique liée à l'évolution. Alors, le scénario est le suivant. Dans les sociétés préhistoriques primitives, la répartition des tâches voulait que les hommes soient capables de se repérer dans l'espace pour la chasse, tandis que les femmes restaient auprès des enfants dans la caverne et transmettaient les traditions orales. Il faut bien voir que pour une majorité de préhistoriens, aucune donnée scientifique ne permet de valider ces théories. Une raison majeure est que les restes fossiles dont on se dispose sont si peu nombreux qu'il est impossible de reconstituer les rapports sociaux de nos ancêtres dans la division du travail. Par exemple, entre les Australopithèques, il y a 3 millions d'années, et le passage de l'Homo erectus à l'Homo sapiens, il y a 150 000 ans environ, on n'a trouvé que 2 squelettes dignes de ce nom, dont la fameuse Lucie. Et celle-ci aurait d'ailleurs très bien pu s'appeler Lucien, tant les incertitudes sont grandes pour déterminer le sexe des os fossiles. Mais quoi qu'il en soit, les préjugés sur la vie préhistorique ont la vie dure et les courants d'opinion continuent de s'affronter. Les uns, à gauche, raisonnent par simple projection de nos cadres mentaux dans les cultures des hommes du passé, avec une représentation stéréotypée de la famille monogame où l'homme était chasseur et guerrier, tandis que la femme était chargée de la cueillette et des enfants. Et à l'inverse, certains courants féministes radicaux considèrent que la femme jouait un rôle majeur pendant l'âge d'or du néolithique. C'est elle qui aurait inventé l'agriculture et assuré la stabilité sociale. Il est clair qu'aujourd'hui, les représentations imaginaires et les mythes continuent d'influencer la réflexion scientifique sur les origines de l'humanité. Alors enfin, troisième approche, avec des théories qui mettent en avant le rôle de l'éducation dans les différences d'aptitude spatiale et verbale entre les sexes. Ainsi, dans nos sociétés occidentales, les petits garçons sont initiés très tôt à la pratique des jeux collectifs de plein air comme le football, qui sont particulièrement favorables, nous l'avons vu, pour apprendre à se repérer dans l'espace et à s'y déplacer. Et ce type d'apprentissage précoce est spécialisé dans l'orientation spatiale. Et en revanche, cette capacité serait moins sollicitée chez les petites filles qui restent davantage à la maison, situation évidemment plus propice pour utiliser le langage pour communiquer. Alors, que dit la science dans tout ça? S'agissant des aptitudes spatiales, verbales et des mathématiques, de sérieux arguments vont à l'encontre des théories sur l'origine innée des différences entre les sexes. C'est ainsi que les différences entre les sexes ne sont décelables qu'à partir de l'adolescence et pas avant, D'autre part, elles sont beaucoup plus marquées chez les Américains blancs que chez les Noirs ou les Asiatiques. Et enfin, la compilation des résultats des tests d'aptitude publiés depuis 20 ans montre une réduction progressive des écarts de performance entre les sexes.
Alors, donc voilà, on vient un peu d'entendre ce démontage de cette idée sur l'orientation spatiale. Et ben par exemple, un des trucs dans ce fameux bouquin dont vous parliez avant, qui regorge de conneries assez dangereuses, donc les auteurs à chaque fois partent de postulats. Alors là, leur postulat, c'est que la testostérone améliore la capacité spatiale. Alors là, c'est pareil, on ne sait pas exactement d'où on le sort. Donc les femmes ayant moins de testostérone que les hommes, elles ont moins de capacité spatiale, et plus le cerveau est féminin, moins il y a de place pour la capacité spatiale. Ensuite, ils ont conclu que, du coup, les femmes très féminines, parce que c'est connu, si on a un cerveau très féminin et qu'on a peu de testostérone, on va être très féminine. Enfin, moi, a priori, je pensais que c'était une histoire d'apparence, etc., de choix, mais non, en fait, c'est le taux de testostérone. Donc, ces femmes très féminines, elles sont très peu douées pour les créneaux ou pour lire une carte routière. Et alors là, ensuite, ils ont un enchaînement qui montre vraiment le mélange entre sexisme et racisme. Et je vais juste vous lire le passage parce qu'il est assez fantastique. Des tests ont montré que le niveau de testostérone des Chinois est beaucoup moins important que chez les Occidentaux de race blanche. Et cela est mis en évidence par l'absence ou le manque de poils sur le visage et une propension moindre à la calvitie. De même, les sociétés chinoises comptent moins d'hommes inculpés de crimes violents par rapport aux blancs ou aux noirs. Le viol y est moins courant que chez les blancs, probablement en raison des niveaux faibles de testostérone. Ce qui explique pourquoi, dans les tests, les Asiatiques ont une capacité moindre à réussir leur créneau. Alors moi, je trouve ça quand même assez...
Je ne sais pas si vous avez suivi le cheminement, parce que c'est tellement tordu qu'il faut, voilà, il faut comprendre, mais...
C'est assez hallucinant. Alors déjà, quand même, ce qui est assez bien dans le stéréotype raciste, c'est qu'il parle au début de tests chez les Chinois, et ils ont conclu sur des trucs sur les Asiatiques, hein, parce que c'est bien connu, il n'y a que la Chine en Asie. Et ensuite, c'est quand même le truc sur le viol qui serait moins courant et ensuite qui réussirait moins bien leur créneau, tout ça à cause de la testostérone. Et ils mettent ça en fait comme une évidence, alors que ça paraît quand même complètement stupide. Et le pire, c'est que je pense que ça marche, quoi.
Voilà, parce qu'il faut quand même savoir, enfin, c'est pas pour rien que nous on a sorti ces bouquins-là, là, parce que qui sont assez violents quand même à lire, mais c'est parce que c'est des, d'ailleurs c'est marqué dessus, hein, c'est marqué 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde, etc. Enfin, c'est hyper diffusé, ça se trouve dans toutes les bibliothèques, tout ça. Donc c'est peut-être bien aussi d'interpeller. Tout à l'heure, j'ai interpellé les bibliothécaires pour leur dire, mais vous vous rendez compte de ce qu'il y a dans les rayons ou quoi? Et je crois qu'en fait elles n'arrivaient pas à se rendre compte de la mesure de la connerie de ça, quoi. Alors, on va continuer, après une pause musicale, à voir, en fait, avec Catherine Vidal, en quoi les fonctions du cerveau ne sont pas du tout liées ni au sexe, ni à la race, enfin, les races qui n'existent pas, mais ni à une pseudo-race ou quoi, mais bien au fonctionnement individuel.
Ouais, et donc comme pied de nez à cette histoire de créneau que les femmes réussiraient moins bien, on va écouter une chanson d'Anne Sylvestre qui est assez marrante et qui s'appelle « Le créneau ».
Quand j'ai eu mon permis tout neuf, du premier coup c'est pas du bluff, je compris que j'avais intérêt à rester aux aguets. Que simplement on m'imagine dans ma deux chevaux d'origine, affrontant mon premier trottoir, le cœur rempli d'espoir. Je voulais que ma manœuvre fût un vrai petit chef-d'œuvre, mais je n'entendais que trop tous les clients d'un bistrot me beugler leurs commentaires. Mais passe là ta marche arrière, ah je vous jure, allez nana, heureusement qu'on est là. Ces abrutis pleins de pernos, ils m'ont fait rater mon créneau. Toutes les automobilistes pourraient faire avec moi la liste des âneries que l'on entend quand on est au volant.
J'ai donc appris à leur répondre et de manière à les confondre. Oui, ça consomme, mais moins qu'un mari, et c'est bien plus gentil. La conduite, je l'ai apprise, pas dans une pochette surprise. La voiture, elle est à moi, ni à Jules, ni à papa. Et quand le long d'un trottoir, je les voyais goguenards, je demandais sans un frisson, vous voulez une leçon pour conjurer la parano? Je suis devenue la reine du créneau. On s'habitue, on en rigole, puis on a une grosse bagnole. Alors on se fait insulter, elle t'a pas trop coûté, hein. Ils sont là qui vous collent aux fesses, parce que c'est pas une gonzesse qui va leur barrer le chemin. La veille, c'est pas demain. Mais tous ces doubleurs à droite, c'est pousse-toi de là que je déboîte. Maniaque de l'appel de phare, abuseur d'antibrouillard, ce chic qui rien ne distingue, le volant avec un flingue, avant que de les laisser nous jeter dans le fossé. Résistons à ces tyrannos, nous sommes les reines du créneau. S'ils nous renvoient à nos fourneaux, ne lâchons pas notre créneau.
Le cerveau humain est constitué de 100 milliards de neurones qui forment des circuits et communiquent entre eux grâce à des synapses dont le nombre est de l'ordre d'un million de milliards. On considère qu'un neurone est en moyenne connecté à 10 000 autres. Or, face à ces chiffres réellement astronomiques, on ne trouve que 6 000 gènes dans le cerveau. Cela signifie qu'il n'existe pas assez de gènes pour contrôler précisément la formation des milliards de synapses du cerveau. Alors, quelle est la fonction de ces gènes ? Leur rôle est déterminant au cours du développement embryonnaire pour guider la mise en place du plan général organisation du cerveau, c'est-à-dire l'organisation des hémisphères cérébraux, du tronc cérébral, du cervelet, etc. Et à la naissance, les grandes lignes de l'architecture du cerveau sont définies et les neurones se multiplient. Mais cependant, la construction du cerveau est loin d'être terminée. 90% des synapses vont se former progressivement dans les 15-20 ans qui suivent la naissance. Vous avez ici représenté des coupes de cortex cérébral humain de gauche à droite à la naissance et aux âges de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 15 mois et 2 ans. Et l'examen de ces coupes montre que le nombre de neurones reste en moyenne le même. Ce qui change, ce sont les ramifications entre les neurones qui témoignent donc de la formation des circuits synaptiques. Et c'est précisément sur la formation de ces circuits que l'environnement va intervenir, avec d'une part l'influence de facteurs du milieu intérieur, tels que l'alimentation, l'action des hormones ou d'éventuels agents pathogènes. Et il y a d'autre part toutes les interactions avec le milieu extérieur, c'est-à-dire l'influence de l'environnement familial, social, et tout ce qui concerne, d'une façon générale, le rapport au monde du sujet. On emploie le terme de plasticité pour qualifier cette propriété du cerveau à se modeler en fonction de l'expérience vécue. Et l'imagerie cérébrale, une fois de plus, nous en donne une très bonne illustration. Vous avez ici le cas d'une expérience en IRM qui a été réalisée sur le cerveau de musiciens, en l'occurrence des violonistes professionnels. On peut observer que la région de leur cerveau qui contrôle les mouvements de la main gauche, est deux fois plus étendue que chez les sujets non musiciens. Et ce résultat correspond au fait que les doigts de la main gauche sont beaucoup plus sollicités sur le manche du violon comparativement à la main droite qui se contente de tenir l'archet. Et un autre point est très intéressant, c'est que cette augmentation de surface est d'autant plus grande que du violon a commencé tôt. Le maximum d'extension de surface se situe entre 5 et 10 ans, c'est-à-dire dans une tranche d'âge où la plasticité cérébrale est particulièrement prononcée. Et au-delà, les valeurs se rapprochent de celles des témoins. Mais attention, cela ne veut pas dire que les enfants qui vont commencer le violon plus tard seront de moins bons musiciens. Simplement, d'autres stratégies d'apprentissage vont être mises en jeu. Autre exemple de plasticité, mais cette fois à l'âge adulte. Il s'agit d'une expérience en IRM, toujours, réalisée sur des cerveaux de chauffeurs de taxi, de Londres d'ailleurs, auxquels on a fait passer des tests d'orientation spatiale. Les images montrent que les zones du cerveau qui contrôlent la représentation de l'espace sont beaucoup plus développées que chez les sujets témoins. Mais de plus, on observe que cette augmentation est fonction du nombre d'années de conduite des chauffeurs de taxi. Alors, l'ensemble de ces résultats montre de façon flagrante comment l'expérience vécue influence le fonctionnement cérébral. Notre histoire individuelle se trouve donc ainsi sculptée dans notre cerveau tout au long de la vie, et il en résulte que personne ne possède exactement le même cerveau, y compris les vrais jumeaux.
Vous êtes toujours sur Dégenré, sur sexe, cerveau, science et pouvoir. Oui, c'est tout un programme. Sur Kaléidoscope 97 FM. Alors, je crois que ce qu'on peut retenir de ces explications de Catherine Vidal, c'est que donc ces différentes expériences qu'elle cite, elles montrent bien le rôle de l'apprentissage et de l'entraînement. Dans les capacités en fait des personnes, y a bien cette idée que c'est en apprenant des jeunes à faire des choses, à comprendre des choses ou des mécanismes, et puis après en s'y entraînant qu'on acquiert des capacités et que c'est pas quelque chose d'inné. Donc je crois que l'idée, c'est vraiment de reprendre les choses à la base, c'est-à-dire de ne pas inverser en fait, de ne pas dire les femmes ont des difficultés pour s'orienter parce que leur cerveau n'est pas fait pour ça, mais plutôt de se dire de se poser la question, qu'est-ce qui fait que les femmes peuvent effectivement, à certains moments, sans doute, on doit trouver des exemples, oui, de femmes qui ont des difficultés pour l'orientation, et moi la première, je crois. Mais d'où ça vient, et à partir du moment où on se pose la question dans ce sens-là, on trouve vraiment, on remonte à la racine, on trouve des explications dans l'éducation, que ce soit au travers de l'école, de la famille, dans les médias. Voilà, qui ont fait que, que peut-être étant gamine, on m'a moins sollicité sur des activités extérieures, où on m'a moins montré dans la voiture quel itinéraire on prenait, etc. quoi.
Moi, par exemple, je crois que j'ai plutôt un bon sens de l'orientation et je sais lire une carte routière, mais d'après, en fait, les psychobiologistes, c'est parce que je suis lesbienne. C'est parce qu'ils l'expliquent à un moment dans leur livre. Donc voilà, j'ai enfin trouvé l'explication.
Voilà, donc après, on peut être rassuré. Et je crois que ce qu'il y a quand même de vraiment grave dans toute leur théorie comme ça, c'est que finalement, tout devient une fatalité. Et quelque part, du verbe naître, dans une condition, donc de femme ou d'homme, et on s'en sortira jamais, en fait, quoi. Donc c'est pas la peine de chercher à progresser ou à faire autrement, puisque que c'est notre nature biologique qui veut ça. Et quand même, ce qu'il faut bien souligner aussi, c'est que sous prétexte de, eux, ils disent qu'on est juste différent et qu'il n'y a pas de hiérarchie ou de mieux d'un statut que de l'autre. Et pourtant, dans tout ce qu'ils disent, à un moment, je suis désolée, mais moi, dans ma vie, avoir des problèmes d'orientation, c'est un vrai problème. Alors que, effectivement, le mec qui n'arrive pas à trouver le beurre dans le frigo, je pense, c'est pas très grave pour lui. De toute façon, il y a des personnes qui le font à sa place. Donc, à un moment, il y a vraiment des choses qui semblent plus problématiques que d'autres, et aussi clairement des choses qui sont plus valorisées que d'autres, quoi. Enfin voilà, c'est beaucoup plus valorisant dans notre société de savoir s'orienter, ça donne une maîtrise sur le monde ou quoi, que de savoir faire la cuisine, par exemple. Ouais. To be free, one must give up a little part of oneself. Go!
Souvent invoqué pour différencier les cerveaux masculins et féminins, la latéralisation du cerveau. Dans les années 70, des chercheurs américains lançaient la théorie des deux cerveaux. L'hémisphère gauche serait spécialisé dans le langage et le raisonnement analytique, tandis que l'hémisphère droit serait spécialisé dans la représentation de l'espace et les émotions. À partir de là, le pas a été vite franchi pour attribuer des différences psychologiques entre hommes et femmes à des différences entre les hémisphères cérébraux. Ainsi, les meilleures compétences des hommes en mathématiques résulteraient d'un plus grand développement de l'hémisphère droit par rapport à la femme, tandis que l'aptitude des femmes pour le langage serait associée à l'hémisphère gauche. À l'heure actuelle, la théorie des deux cerveaux est considérée comme caduque, car beaucoup trop simpliste, face en particulier aux études d'imagerie cérébrale qui désormais permettent de voir le cerveau vivant en train de fonctionner. Vous avez ici représenté le type de machine utilisée pour faire de l'imagerie cérébrale par résonance magnétique ou IRM. La tête du sujet est entourée par un aimant, ce qui va permettre de mesurer le champ magnétique des atomes du cerveau, et on peut ainsi localiser des régions cérébrales qui sont activées quand on demande, par exemple, au sujet qui est placé dans la machine de faire une opération mentale. Grâce à ce fabuleux outil, on a pu montrer que dans des conditions physiologiques, les deux hémisphères sont en communication permanente et qu'aucun ne fonctionne isolément. De plus, une fonction n'apparaît jamais localisée exclusivement dans une seule région. Si on prend l'exemple du langage, on s'aperçoit que le langage mobilise une dizaine d'aires cérébrales qui sont localisées non seulement à gauche, mais aussi à droite. Autre exemple, cette étude qui porte sur les capacités de calcul mathématique, soi-disant associées à l'hémisphère droit, d'après la théorie des deux cerveaux, l'IRM en fait montre le contraire. Pour résoudre des problèmes arithmétiques, les régions les plus activées sont le cortex frontal gauche, ainsi que les aires pariétales gauche et droite, et ce, quel que soit le sexe du sujet. En fait, si on fait le bilan depuis 10 ans des travaux d'imagerie consacrés aux fonctions cognitives supérieures, sur plus d'un millier d'études, seulement quelques dizaines ont montré des différences entre les sexes. La raison principale tient à l'importance de la variabilité individuelle dans le fonctionnement du cerveau.
Donc, avant cette explication donc, qui démontre qu'il n'y a pas de cette idée d'un cerveau gauche, cerveau droit, cerveau féminin, cerveau masculin, etc., on avait écouté un morceau tiré de la BO du film Hedwig and the Angry Inch, et qui, en résumant très très vite, c'est l'histoire d'une transsexuelle qui fait du rock'n'roll, et c'est un super film si vous l'avez pas vu. Et sinon, eh ben voilà, quand j'écoutais cette histoire aussi, par exemple, que à cause de leur cerveau, les femmes seraient naturellement moins douées pour les mathématiques. Enfin, ça me faisait aussi penser que ces trucs, et ben, ces théories, c'est vraiment dangereux parce qu'elles ont une implication politique, quoi. Et que par exemple, un des trucs qu'elle dit aussi dans son bouquin, c'est que toutes ces recherches, et ben, ça va changer des trucs, par exemple sur les investissements de l'État dans des programmes d'aide sociale ou scolaire. Et par exemple, une des principales scientifique qui a sorti vraiment des tonnes d'études, des caractères déterministes vraiment sexistes et racistes, c'est une américaine, Doreen Kimura. Et un peu tous les livres là dont vous avez parlé avant, ils s'appuient vraiment sur elle. Et elle, on voit qu'elle a à la fois une carrière scientifique et politique. Et elle fait partie d'un organisme qui s'appelle le Freedom Party, enfin d'un parti donc, qui est ultra libéral et qui, par exemple, pense qu'il faut s'opposer au principe d'égalité des chances et donc au programme d'aide sociale ou scolaire pour les enfants, que ça sert à rien d'orienter les filles, par exemple, vers les mathématiques, des trucs scientifiques, mais il faut juste les pousser vers des métiers manuels ou de communication. Du coup, il faudrait qu'ils aient des enseignements spécifiques et dans des écoles séparées. Et la même, enfin, elle a aussi du coup des trucs sur, en gros, les cerveaux des enfants pauvres. Enfin, ils seraient aussi moins doués que, en gros, en fait, ce qu'on est, eh ben, ça résulte que de notre cerveau, de nos gènes. Donc, ça sert à rien. Enfin, il y a aucun facteur
de dépasser ça,
social, quoi. Etc. Ça sert à rien de dépasser ça. Donc, il faut aucun investissement de l'État dans des programmes d'aide scolaire, par exemple. Et parce que ça sert à rien d'agir pour nous sortir de ce qu'elle appelle les castes cérébrales. Donc, on voit quand même que c'est des discours hyper dangereux, quoi.
Voilà, parce qu'il y a vraiment un lien entre la science, la sphère politique et la sphère économique, quoi. Et alors là, on va passer donc toujours autour des idées reçues qu'on a à la question des hormones et du lien avec le cerveau. Et alors là encore, c'est vraiment incroyable de stupidité, toutes les idées qui peuvent être véhiculées là-dedans, notamment dans les magazines comme un que je tiens dans les mains qui s'appelle « Vie pratique, madame » de juin 2006. Hein, donc voilà, j'ai trouvé à la sortie du supermarché aujourd'hui. Et alors là... On continue parce que les hormones ça a été quand même très très à la mode je sais pas ces 10-20 dernières années où c'était vraiment le poids des hormones, on pouvait pas lutter contre ça. Et ben là ça continue mais avec des liens aussi avec justement le cerveau. Alors donc c'est tout un dossier qui s'appelle pourquoi l'amour rend aveugle. Eh bien c'est la faute à nos neurones. Explication en page 20. Donc en page 20, il y a plein de petites questions et avec des réponses hautement scientifiques. Et alors une des questions, c'est pourquoi tombe-t-on plus souvent amoureux à 16 ans qu'à 40 ans ? Et là, on nous explique, à la puberté, les hormones transforment le corps. Elles agissent aussi sur le cerveau, ces hormones, pour le préparer à être réceptif aux sensations provoquées par le sexe opposé. Les moments les plus forts se situent entre 13 et 18 ans. À force de rencontres, les effets de la chimie s'amenuisent. On tombe moins facilement amoureux, simplement parce que les circuits du cerveau qui provoquent l'euphorie sont désensibilisés. Bon, ils nous disent pas si avec le temps tu deviens plus facilement lesbienne ou gay, enfin j'ai pas tout compris, hein, mais bon. Voilà, donc ça vaut le coup quand même de vraiment répondre sur ces préjugés, sur le lien hormones-cerveau, tout ça.
Manifestement, l'ensemble de ces arguments plaide en faveur d'un rôle majeur des facteurs socioculturels dans les différences d'aptitudes cognitives entre les individus et entre les sexes. C'est pourtant la position contraire qui est défendue dans certains milieux scientifiques, principalement aux États-Unis. Il y est prétendu que les différences de répartition sociale et professionnelle entre les hommes et les femmes sont le reflet de différences de capacité mentale déterminées biologiquement. Nous allons voir de plus près sur quoi reposent leurs arguments. Il s'agit essentiellement d'études utilisant des tests neuropsychologiques dont vous avez ici quelques exemples. Les femmes réussissent mieux dans des tests de perception visuelle, comme par exemple ici en haut à gauche, identifier deux objets identiques, là des maisons, ou bien repérer un objet, ici une clé parmi d'autres objets. Et les femmes sont aussi meilleures dans des tests de langage, comme la fluence verbale, qui consiste à énoncer un maximum de mots commençant par une lettre. Du côté des hommes, les performances sont meilleures dans des tests d'orientation spatiale, où il faut faire tourner mentalement un objet dans les trois dimensions de l'espace. Également dans des tests où il faut repérer une figure géométrique parmi des figures complexes. Et les hommes sont également meilleurs que les femmes pour viser une cible. Alors, quelles conclusions peut-on tirer de ces expériences ? Bon, tout d'abord, il faut garder à l'esprit que ces mesures de performance sont des moyennes statistiques. En fait, les différences de score entre les sexes sont modestes et n'excèdent pas 10-15%. Cela signifie que la dispersion des valeurs est telle qu'on trouve un nombre non négligeable de femmes qui sont meilleures dans les tests des hommes et réciproquement. Autre remarque, ces types de tests employés en neuropsychologie mesurent des opérations mentales qu'on peut qualifier d'élémentaires, qui sont bien loin des capacités d'intelligence et d'imagination de la pensée humaine. Et enfin, et c'est important, rien ne permet dans ces expériences de conclure quant à l'origine innée ou acquise des différences de performance entre les hommes et les femmes. Reprenons l'exemple des différences entre les sexes concernant l'orientation spatiale et les capacités verbales. Pour les uns, ces différences s'expliquent par l'action des hormones pendant la vie fœtale. Chez l'embryon masculin, les hormones mâles favoriseraient le développement de l'hémisphère droit spécialisé dans le traitement des informations spatiales, et ce au détriment de l'hémisphère gauche impliqué dans le langage. Nous avons vu tout à l'heure que cette théorie est beaucoup trop simpliste et qu'elle ne permet pas de rendre compte de la réalité du fonctionnement du cerveau tel que l'IRM peut nous le révéler. Attardons-nous un petit peu là sur le rôle des hormones sexuelles dans les comportements humains. C'est également un sujet très polémique. Ces hormones jouent, on en a parlé tout à l'heure, un rôle fondamental dans la reproduction. Chez les animaux, le comportement sexuel est totalement régi par les hormones qui vont déterminer les périodes de rut et d'accouplement, échappe totalement à ce déterminisme. Nous sommes la seule espèce où sexualité et reproduction sont complètement dissociées. Chez nous, le choix d'un partenaire n'a strictement rien à voir avec les hormones. Et d'ailleurs, le fait que les homosexuels aient des taux d'hormones totalement normaux est une bonne illustration de cette dissociation entre sexualité et reproduction. Et on peut dire, en fait, que dans la sexualité humaine, la culture, en quelque sorte, va se substituer à la nature. Et c'est d'ailleurs bien ce que montrent les anthropologues qui étudient les différents modes d'expression de la sexualité dans les civilisations.
Chez les singes, ça se passe sous la culture. J'ai entendu dire que les bonobos, ils étaient comme nous, par exemple.
On pourrait y revenir, parce que les bonobos... Les hommes adorent les bonobos. Justement, je vais y revenir. Je continue. Donc là, on était hormones sexuelles, reproduction. Maintenant, on va passer hormones sexuelles et capacités cognitives. Alors, quels sont les arguments qui tentent à montrer l'influence des hormones sexuelles dans les fonctions cognitives ? Les travaux dont on dispose sur ces questions-là sont en fait relativement peu nombreux et ils doivent souvent être interprétés avec précaution car les données expérimentales sont parfois un petit peu difficiles à interpréter. Il y a en effet d'une part des études qui sont réalisées chez l'animal, souvent des rats et des souris, et qui montrent par exemple que les performances de mémoire sont améliorées ou bien modifiées sous l'effet de la castration ou de l'injection d'hormones. Il s'avère que de nombreuses expériences qui montrent justement ces modulations des activités de mémoire sous l'effet des hormones, en fait sont valables pour certaines souches de rats et de souris, et qu'elles n'ont pas parfois pu être reproduites quand d'autres lignées de rongeurs sont utilisées. Cela signifie que ces résultats sont valables chez certains, mais pas d'autres, et donc ils ne sont pas généralisables déjà chez l'ensemble des rongeurs. Chez l'homme, les études dont on dispose sont des études qui concernent des cas particuliers, en particulier des cas de traitement de la stérilité ou des cas de traitement de certains cancers. Il s'agit en fait de situations pathologiques où les concentrations d'hormones injectées sont bien supérieures à la normale. Mais par contre, quand on se retrouve dans des conditions physiologiques, on observe à nouveau une très grande variabilité individuelle qui, de ce fait, ne va pas permettre de pouvoir tirer de règles générales sur l'effet des hormones sur les fonctions intellectuelles.
Raté la mayonnaise, on espère encore qu'elle se taise. Elle a 36 idées par heure, quand elle a pas le fou rire, elle pleure. D'un seul coup, elle est irascible, puis elle devient hypersensible. Elle dit que ça la tarabuste, et elle prétend que c'est injuste. Elle rouspète, elle ronchonne, elle peut plus supporter personne. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est vers 12 ans que ça débarque, elle accepte plus les remarques. Elle désespère l'entourage, en tenue de ski sur la plage. On ne peut plus, et c'est un comble, la plaisanter du bout de l'ongle. C'est l'éternelle féminine qui fleurit en cette gamine. Elle était pourtant bien mignonne, ça y est, elle nous empoisonne. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. Quand c'est devenu la routine, qu'elle y a mis une sourdine, on se croit sorti de l'auberge, c'est alors qu'elle nous submerge de lait, de tétine, de couche. Ah non, il faut plus qu'on y touche, elle se prend pour un tabernacle, on devrait crier au miracle. Elle s'arrondit, elle ronronne, elle n'est jamais là quand on la sonne. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. Quand enfin plus rien ne s'oppose à ce qu'elle nous fasse une pause, n'espérez pas qu'elle se calme, on peut lui décerner la palme de la plus tranquille emmerdeuse. Elle dit qu'elle veut être heureuse, elle dépense, elle dilapide, elle devient extra-lucide. Paraît que c'est la testostérone qui fait les vieilles Amazones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. Elle fait tourner le lait des vaches, tout ce qu'elle touche, elle le gâche. Elle est folle, elle est hystérique, comprend rien à la mécanique. D'ailleurs, c'est une pécheresse, elle peut même pas dire la messe. L'autorité, elle la sape, elle désespère même le pape. Et pourtant, elle se cramponne, elle manifeste, elle s'époumonne. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est la faute aux hormones, Simone, c'est la faute aux hormones. C'est pourtant la moitié du monde, il a fallu qu'elle nous ponde, qu'elle nous abreuve, qu'elle nous torche, qu'elle nous dise qu'on n'est pas si moche, qu'elle nous attende pendant des heures, qu'elle nous console quand on pleure, qu'elle nous veille quand on est malade, qu'elle avale toutes nos salades. Si un jour elle nous abandonne, on trouvera la vie monotone. Et vive les hormones, Simone, et vive les hormones. Et vive les hormones, Simone, et vive les hormones. Et vive les hormones, Simone, et vive les hormones. Et vive les hormones, Simone, et vive les hormones.
Alors qu'en est-il maintenant chez l'être humain? L'être humain, que vous avez ici un cerveau d'homme en coupe, et en bas, on voit l'hypothalamus à proximité de l'hypophyse. En 1991, Un anatomiste américain, Simon Levey, publiait dans la revue scientifique Science un article comparant la morphologie de l'hypothalamus chez les hommes et les femmes, mais aussi chez les hommes homosexuels. L'étude reposait sur l'observation de cerveaux conservés dans le formol et montrait qu'un tout petit noyau de l'hypothalamus de moins d'un millimètre est deux fois plus gros chez les hommes hétérosexuels que chez les hommes homosexuels et les femmes. À partir de ce résultat, Levey n'a pas hésité à conclure qu'il existerait un substrat biologique à l'orientation sexuelle. Il faut souligner que cette opinion est loin d'être partagée par l'ensemble de la communauté scientifique, non seulement à cause de ses implications idéologiques, mais aussi et surtout parce que la validité des résultats publiés est hautement contestable. Un biais majeur dans cette étude est que les hommes homosexuels étaient atteints du sida, contrairement au groupe d'hommes et de femmes hétérosexuels. Or, on sait que le virus du sida pénètre dans le cerveau et y produit des lésions, ce qui fait que la comparaison entre homosexuels morts du sida et le groupe témoin n'est pas exactement valable. De toute façon, il n'est pas concevable qu'un minuscule noyau de l'hypothalamus de moins d'un millimètre détermine les comportements sexuels humains qui, comme on le sait, sont hautement diversifiés et fluctuent dans le temps en fonction de l'histoire de chaque individu. Et dans ce contexte, il n'est pas très étonnant que d'autres équipes de chercheurs n'ait jamais retrouvé ses résultats. Il est clair que jusqu'à présent, aucun argument scientifique ne permet de dire que l'homosexualité est due à des causes biologiques, qu'il s'agisse des hormones, du cerveau ou des gènes. Il y a 10 ans, des chercheurs ont prétendu avoir trouvé un gène de l'homosexualité. Or, depuis, leur résultat a été complètement démenti. Mais le succès médiatique a été tel que cette histoire traîne toujours dans les esprits. Il est aussi important de remarquer que ces études manifestement peu rigoureux scientifiquement, ont été publiés dans les revues Nature et Science, qui sont pourtant réputées pour appliquer des critères hautement sélectifs dans le choix des articles qui leur sont soumis. Et on constate hélas que depuis quelques années, ce genre d'exception à la règle est de moins en moins rare, dès lors qu'il s'agit de sujets à forte retombée médiatique.
Donc vous êtes toujours sur Dégenré, qui touche bientôt à sa fin. Mais voilà, donc en faisant un peu le tour des formes de discrimination que viennent cautionner la science, et ben on peut voir les discriminations à l'encontre des gays et lesbiennes, hein, comme le montrent encore ces études à la noix. Et par rapport à ça, on peut dire que c'est vraiment le reflet, finalement, là, la science, elle est un peu le reflet d'une homophobie intégrée dans l'ensemble de la société. Parce que, quelque part, ce qu'on veut nous dire, c'est « mais c'est pas grave d'être homosexuel, c'est dans les gènes, c'est, les personnes, elles y peuvent rien ». Et en même temps, c'est quand même déjà sous-entendre qu'il y a un problème à être homosexuel. Quand on dit c'est pas grave, c'est qu'à la base déjà on dit qu'il y a un problème. Et en plus, il y a vraiment cette idée que ça peut pas être un choix des personnes, enfin qu'elles sont dépossédées quelque part qu'elles sont un peu dépossédées de leur vie, de leur choix, etc. Et que on va expliquer ça à leur place. Donc c'est vraiment voilà quelque chose que on a intégré par rapport aux questions d'homosexualité. Mais je crois qu'il y a des après on trouve vraiment dans toutes ces approches plus ou moins scientifiques des formes d'homophobie vraiment plus manifestes encore.
Ouais, bah disons que c'est vraiment ce truc enfin, qui est de l'homophobie, en fait, mais qui va se montrer sous un truc de pseudo-tolérance, comme par exemple dans ce bouquin de ces mêmes psychologues qui disent que eux, il n'y a pas de problème. Alors, c'est sur l'homosexualité et génétique. Et en fait, pour leur bien, les homosexuels feraient bien de le reconnaître, parce que les gens les accepteraient plus. Parce qu'en gros, si c'est pas de ta faute, si c'est naturel, t'auras moins d'hostilité.
Ce serait moins dérangeant, quoi.
Que si c'est un choix, parce que, par exemple, ils disent on ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'être dyslexique. Parce que, alors déjà, ça, je sais même pas pourquoi la dyslexie serait génétique, mais bon. Et voilà, et pour eux vraiment c'est pas possible qu'il y ait un choix parce qu'ils le disent. Alors une personne intelligente, comment elle pourrait faire le choix de choisir un mode de vie qui entraîne autant de discrimination, quoi? Et alors que
sans monter aux causes sociales en plus des discriminations.
Et du coup, là où c'est vraiment lié avec ce truc de différence homme-femme, c'est aussi tous ces bouquins, c'est vachement des bouquins adressés aux couples, en fait. Comme par exemple, là, un de ses livres, Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, où tout le truc, lui, ses séminaires, c'est pour les couples, pour qu'ils vivent heureux, et tout son discours, c'est accepter vos différences, et en fait, vous êtes fondamentalement complémentaires, et faut surtout pas en sortir. Donc, non seulement ça porte une espèce de truc d'homophobie, parce que tout son truc, c'est de dire que pour s'aimer, il faut être différent et complémentaire. Et du coup, la différence, eh ben, obligatoirement, elle est homme-femme. C'est pas une histoire de différence entre les individus, mais c'est vraiment comme ça. Et que, en gros, pour être un couple parfaitement heureux, il faut surtout pas sortir des stéréotypes homme-femme. Et là, dans son bouquin, il y a des tonnes d'exemples.
Des rôles attribués, quoi.
Une fois que ces couples ont compris voilà, la femme devait rester dans son rôle, ne pas parler à son mari, ne pas lui faire... Enfin, c'est vraiment des tonnes de conseils, c'est hallucinant. Qui sont les mêmes, en fait, que dans les manuels, je sais pas, moi, pour jeunes filles des années 50 de bonne conduite. Eh ben ça, c'est la même chose, mais version moderne, où on dit, en fait, c'est la science, quoi. Donc, voilà un peu... ce qu'on voulait un peu appuyer, pour conclure, c'est que... tous ces discours, eh ben, ça tend à diviser les individus en deux catégories, hommes-femmes, desquelles il serait impossible de sortir. Et nous, on voulait déjà aussi remettre en cause, parce qu'on n'a pas vraiment parlé, mais c'est que même à la base, de faire une différence biologiquement entre les hommes et les femmes, c'est pas si évident. Et on s'en rend compte, par exemple, quand on s'intéresse aussi à la question des intersexes. C'est que
ce qui veut dire littéralement inter, ce serait entre deux sexes, en fait, donc pas dans une catégorie ni une autre.
Voilà, et que ça, c'est absolument pas possible, quoi. Les bébés donc qui naissent avec, où ça paraît pas une évidence, donc en général, c'est à première vue de leurs organes sexuels, que on peut pas les mettre clairement dans une catégorie homme ou femme. On va leur faire des tonnes de tests parce qu'à la fin, faut qu'ils rentrent dans une catégorie et aussi des opérations. Donc évidemment, sans demander. Enfin, on voit dans les documentaires aussi comme les parents, ils sont complètement orientés par les scientifiques qui leur disent que si, il faut faire des opérations très tôt. Et par exemple, on se rend compte que la majorité des opérations pour les bébés intersexes, ça vise à en faire des filles parce que c'est plus facile au niveau de la chirurgie de faire. De par exemple reconstituer un vagin parce que voilà ce qu'ils font d'une fille c'est qu'elle a un trou quoi en gros et que par contre les garçons qui ont ça serait pas possible parce qu'il y a des garçons par exemple avec un pénis de pas de telle taille quoi, il y a des protocoles très clairs qui disent que si le pénis ne fait pas telle taille et il faudra en faire une fille etc.
Et il y a un truc, une info marquante aussi, par exemple, que je ne connaissais pas, c'est que en France, par exemple, il y a quand même près de 400 000 personnes, des centaines de milliers de personnes, qui n'ont pas des chromosomes XX ou XY, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir 3X ou 2X, 1Y ou je sais pas quoi. Donc, est-ce que ça veut dire que ces personnes, elles n'ont pas de droit d'existence elle n'aurait pas de droit d'existence ou c'est vraiment toute cette question entre la biologie et ensuite le genre qui nous est attribué dans la société qui pour nous est toujours le fruit d'une construction sociale quoi.
Voilà et bon comme d'habitude on voulait développer mais on est toujours un peu à la bourre dans des genrés. Et voilà, c'est aussi un peu pour remettre en cause cette société où, par exemple, du coup, c'est impossible de se définir transgenre. Si on est transsexuel, c'est une maladie. Si on est pédéogouine, c'est une maladie génétique. Et je pense, si on est féministe, c'est qu'on a un trop grand taux de testostérone, etc.
Donc, peut-être en conclusion, on pourrait dire, que clairement le cerveau n'a pas de sexe hein, donc c'est ça et que la construction que l'identité des personnes en tant qu'homme ou en tant que femme c'est bien une construction sociale et qu'il y a plein de gens qui ne se retrouvent pas dans ces catégories là. Voilà
et on vous laisse avec un morceau de Kenny Arcana qui s'appelle La Rage.
Yeah. détruire et que ce soit toujours des innocents aux cendres déchire la rage. Car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature, la rage? Car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les pécans des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc? La rage, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses? La rage, de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leurs cris d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs champs OGM stérilisent la terre. La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de vos rêves pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage, on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire et de faire en sorte que ça bouge. La rage d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage car ce monde voit rouge, mais de gris ça y s'entourait. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour. Tant de grands savoirs ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité. La rage car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, l'ébullition. La rage, voilà la rage ou l'essence de la révolution. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout.